Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le gouvernement français présentera ce mardi les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration avant un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Les principaux points ont été dévoilés, nous y reviendrons avec le député de la Meuse, Bertrand Pancher, président du groupe parlementaire Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Des dirigeants militaires et civils signent un accord pour mettre fin à la crise politique au Soudan, une crise qui sévit dans le pays depuis le coup d'État il y a un peu plus d'un an. La contestation se poursuit en Iran via un appel à la grève générale malgré l'annonce de la suppression de la police des mœurs. Cette police qui a arrêté Mahsa Amini à Téhéran pour un voile jugé mal porté, cette jeune femme décédée en détention. La grande médaille de la francophonie remise jeudi dernier au journal libanais L'Orient le Jour. Ce prix est remis chaque année par l'Académie française depuis 1986. C'est la première fois qu'un média francophone est récompensé. Dans votre journal, le co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, Anthony Samrani. Le ministre de la Santé appelle à la vaccination et au port du masque face à la 9e vague de Covid-19 qui s'ajoute aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Le Maroc jouera ce mardi face à l'Espagne pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde, coup d'envoi à 16h. La France affrontera l'Angleterre samedi prochain. Expulsion, régularisation, asile, le gouvernement français présentera ce mardi les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. L'exécutif veut notamment engager une réforme structurelle à tous les stades de la demande d'asile. Cette présentation aura lieu avant un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Entretien avec le député de la Meuse, Bertrand Pancher, président du groupe parlementaire Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires.
D'après nos informations et les entretiens directs que nous avons eu à la fois avec le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, on nous a présenté ce projet de loi comme un projet équilibré entre un besoin de fermeté et d'application de la réglementation concernant l'accueil des migrants sur notre territoire et l'intégration de celles et ceux qui sont sur notre territoire et qui ne repartiront jamais chez eux. Je rappelle quand même qu'il y a à peu près 300 000 migrants en France en situation soit irrégulière où on demande de régularisation, que ces migrants, pour la plupart d'entre eux, ne repartiront jamais chez eux, puisqu'on considère que quand on est là depuis plus de 5 ans, on a des enfants, on commence à s'intégrer et personne dans aucun pays qui nous entoure n'a l'indécence de renvoyer ces personnes chez eux. Bon. Et donc, le fait qu'on puisse renforcer la fermeté pour l'accueil sur notre territoire, il y a ou bien ceux qui peuvent être accueillis, notamment ceux qui sont protégés par les demandes d'asile, ceux qui viennent par le travail, les regroupements familiaux. Il y a ceux qui n'ont pas le droit de venir chez nous. On voit bien qu'on met beaucoup trop de temps pour instruire les dossiers, et notamment avec toutes les voies de recours. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de difficultés de les renvoyer chez eux. Donc, il faut être ferme et en même temps, il faut se soucier de ceux qu'on renverra jamais dans leur pays. Et ces personnes-là, on veut les intégrer par le travail. Bien tant mieux parce que on a des tas de secteurs complètement tendus et des tas de demandes. Et sur le papier, cette loi nous paraît équilibrée. Bon, reste encore à le démontrer. C'est-à-dire qu'il faut évidemment pas qu'on puisse renforcer nos conditions d'accueil, renforcer les contrôles, tout en faisant en sorte que on perde évidemment les droits à se défendre. C'est ce qu'on va regarder dans le projet de loi qui va nous être annoncé.
L'exécutif qui entend faire du travail le premier lieu d'intégration des étrangers, c'est une philosophie qui vous convient ?
Oui, parce que moi je suis quand même très très frappé de voir que il y a beaucoup de migrants en situation irrégulière qui travaillent. D'ailleurs, paradoxalement, ils sont déclarés, mais ils disposent d'aucun droit. Donc, c'est quand même le signe qu'on en a besoin. Et je suis très frappé également de l'exploitation d'un certain nombre de ces personnes, puisque pouvant être conduits à tout moment à la frontière, on voit bien qu'il y a beaucoup d'abus. Et je trouve que c'est important de montrer que c'est possible de les intégrer, notamment dans les secteurs où on a vraiment besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Moi, je vais vous citer un exemple. Toutes les questions d'aide à domicile partout dans tous les départements de France, compte tenu du fait que ce sont des emplois où on a beaucoup de mal à trouver du personnel, on a besoin de peu de formation. Dans ces domaines, on pourrait évidemment accueillir beaucoup plus de personnes par le travail. C'est le cas également pour certains métiers difficiles du bâtiment, c'est le cas également dans la restauration. Les ministres concernés nous ont indiqué qu'ils pensaient pouvoir intégrer 30 000 personnes comme ça par an. Bon, je pense que ce sera une possibilité de faire en sorte que cette intégration soit acceptée par tous et demandée par les chefs d'entreprise.
C'est une énième loi sur l'immigration, ou alors estimez-vous que ce projet de loi est d'une importance particulière ?
Si on se fixe comme objectif de pouvoir réellement intégrer une grande partie de ces 300 000 personnes sans papier sur notre territoire, qui sont logées dans des conditions désastreuses et qui ne demandent qu'à travailler, je pense que ça serait vraiment une très très bonne solution. Reste maintenant à simplifier et accélérer toutes les demandes d'instruction de dossiers, de façon à faire en sorte que quand on arrive sur notre territoire, eh bien, on puisse très rapidement savoir si on est issu de pays en guerre avec nécessité de pouvoir appliquer le droit d'asile, ou bien si on rentre de façon complètement illégale, sans avoir l'autorisation de le faire. Pour ça, il faut vraiment accélérer les procédures d'examen des dossiers, accélérer les procédures de recours, et il y a un sujet également qui est essentiel, il faudra que le gouvernement également nous apporte la démonstration que on simplifie également les conditions d'accueil et de lorsqu'on demande des renseignements dans toutes nos préfectures, puisque souvent les migrants peuvent disposer de papiers, mais comme ils sont tenus de passer par des systèmes internet et des déclarations en ligne particulièrement complexes, il faut remettre aussi de l'humain dans tout ça. On avance dans ces directions, ça peut être une avancée. Si par contre, on réduit les droits des migrants venant sur notre territoire et qu'on n'applique pas les dispositions internationales parce qu'on ne donne pas à ces migrants les possibilités de réellement faire valoir leurs droits, ce sera une régression. Et si on intègre avec beaucoup trop de contraintes administratives les personnes par le travail, il y aura peu d'avancées. Donc reste pour nous le sujet qui est essentiel, c'est-à-dire savoir comment, à travers cette loi, on va nous démontrer qu'elle est équilibrée. Elle l'est pour le moment sur le papier. Attendons de voir tous les détails avec toutes les organisations, d'ailleurs, qui sont concernées par ce type de sujet.
Et accélérer les procédures liées au droit d'asile, cela revient à accueillir ou à expulser plus rapidement ces personnes.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais il faut qu'on donne également des signaux. On voit bien que on peut pas accueillir toutes les personnes qui voudraient venir pour des simples motifs d'opportunité sur notre territoire, même si on ne quitte pas sa famille, ses amis et son pays en prenant beaucoup de risques, tout ça pour le plaisir, mais c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on continue à développer l'aide internationale, l'aide au développement. Je rappelle qu'on s'est fixé comme objectif de consacrer 0,7% de notre richesse nationale à l'aide au développement. On est à 0,55% actuellement. Il faut encore faire des efforts pour poursuivre l'aide au développement. Et puis, il faut qu'on continue à accueillir les migrants de pays en guerre. Ce sont nos engagements internationaux quand on est menacé, qu'on se les répartisse en Europe. Puis, on a des besoins, notamment en termes de marché du travail, sous-entendu. Puis, il y a aussi tous les regroupements familiaux qui sont indispensables. Et il y a également les étudiants. Bon, il y a toutes des catégories de migrants qui sont accueillis, évidemment, avec beaucoup de plaisir dans notre pays.
Le député de la Meuse, Bertrand Pancher, président du groupe parlementaire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Les forces israéliennes ont tué un Palestinien ce lundi. C'est arrivé lors d'affrontements lors d'une opération de l'armée en Cisjordanie occupée. L'homme a été tué par balle dans la poitrine, dans un camp de réfugiés à Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie. C'est ce qu'indique le ministère palestinien de la Santé. Des dirigeants militaires et civils signent un accord pour mettre fin à la crise politique au Soudan, une crise qui sévit dans le pays depuis le coup d'État il y a un peu plus d'un an. Cet accord est la première étape d'un processus politique en deux phases. Il jette les bases de l'établissement d'une autorité civile de transition, cela avant un accord final qui traitera de questions comme la justice transitionnelle et les réformes de l'armée. Le président des Émirats arabes unis est arrivé ce lundi au Qatar où il a été accueilli par l'émir Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani. Cette visite est la première depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après 4 ans de rupture. C'est en ce moment en Algérie, le 11e Festival international du cinéma d'Alger. Il se déroule jusqu'à samedi prochain. 25 films, de longs et courts métrages et des documentaires animent la compétition. Ce festival fait son retour après 2 années d'absence due à la pandémie de coronavirus. La grande médaille de la francophonie remise jeudi dernier au journal libanais L'Orient le Jour. Ce prix est remis chaque année par l'Académie française depuis 1986 et c'est la première fois qu'un média francophone est récompensé. Entretien avec le co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour, Anthony Samrani.
On était extrêmement émus et très honorés, à la fois par cette distinction, mais aussi et peut-être même surtout par la réaction qu'on a eue de la part de nos lecteurs et de nos collègues des autres rédactions. On a essayé de tout mettre en œuvre ces dernières années pour améliorer le journal, continuer à faire vivre son héritage et en même temps le réinventer quelque part. Et on a le sentiment que ce prix de l'Académie, un an après le prix de l'Albert Londres qu'a reçu une de nos journalistes, Caroline Hayek, c'est quelque part la récompense de tous ces efforts.
Pouvez-vous nous faire part des grandes étapes qui ont marqué la vie de ce quotidien emblématique libanais ?
À la base, c'est deux quotidiens qui sont tous les deux nés dans les années 20. Et donc L'Orient, le premier quotidien qui est né en 1924, fêtera ses 100 ans en 2024, et Le Jour, qui est né quelques années après. C'est deux quotidiens qui ont traversé énormément d'étapes, donc le mandat français, puis l'indépendance, puis bien sûr la guerre civile, qui ont fusionné en 1971, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont presque curieusement connu un regain d'intérêt après la guerre. C'est-à-dire qu'ils ont profité du fait qu'une partie des Libanais ont souhaité rentrer au pays après la guerre, notamment une partie des Libanais francophones. Et aujourd'hui, c'est un quotidien qui arrive à vivre parce qu'il y a une diaspora libanaise, francophone, mais aussi anglophone, parce que nous avons créé L'Orient Today, notre version anglaise, qui a envie d'être informée à la fois sur le Liban et sur le Moyen-Orient, aux quatre coins du monde. Et c'est là-bas que se trouve aujourd'hui l'essentiel de notre lectorat.
Et un mot est revenu lors de l'attribution de cette grande médaille de la francophonie, c'est le mot courage.
Tous les gens qui sont et qui restent au Liban font preuve de courage. Nous, on essaye avec les moyens du bord, on essaye dans des conditions qui sont pas faciles, de faire du mieux qu'on peut, d'essayer d'amener une information de qualité pour nos lecteurs, parce qu'on croit vraiment beaucoup à ça. On pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui.
Pouvez-vous nous parler des grandes figures qui ont collaboré pour ce quotidien ?
Tout d'abord, il y a le créateur de L'Orient, qui est Georges Nahash, qui est un personnage assez illustre, qui notamment est connu pour avoir, au moment de ce qu'on appelle le pacte national au Liban, qui était l'entente entre les maronites et les sunnites, et il a fait une phrase qui était très célèbre, qui disait « Deux négations ne font pas une nation », pour dire que le Liban n'était ni complètement occidental, ni complètement arabe, ne suffisait pas à poser les bases d'une nation moderne. Il a fait de la prison pour ça. Il y a aussi Michel Chiha, qui a été le créateur du journal Le Jour et qui a été aussi le rédacteur de la Constitution libanaise. Pendant la guerre, on a eu aussi plusieurs figures illustres, notamment quelqu'un qui est encore avec nous, qui s'appelle Rissa Relayeb, qui a été rédacteur en chef pendant 35 ans. Et aujourd'hui, on est assez content au journal d'avoir toute une jeune génération, c'est-à-dire des gens qui ont entre 25 et 40 ans, qui n'ont pas nécessairement vécu la guerre et qui pourtant se sentent vraiment appartenir à ce journal et à et à cet héritage.
Et il y a Elie Mazbounji également, qui est une grande figure de la presse, qui a collaboré longuement avec ce journal.
Oui, bien sûr, Elie Mazbounji, qui était correspondant à Paris.
Après avoir reçu cette grande médaille de la francophonie, est-ce que vous pouvez nous faire part du regard que vous portez sur la francophonie, notamment après le sommet de la francophonie à Djerba le mois dernier?
Pour nous, la francophonie, elle est essentielle, elle fait partie de notre ADN. Après, je pense qu'elle ne suffit pas pour autant à nous définir. Il est très important qu'on écrive en français et qu'on fasse perdurer le français. Mais le fait d'écrire en français, au contraire, ça nous offre une liberté. Ça ne détermine pas ce qu'on est et ce qu'on doit écrire. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on vit la francophonie ici. C'est comme un espace de liberté qui est nécessaire à la fois pour le Liban et plus généralement pour le monde arabe.
Le Liban qui vit une très grave crise économique qui touche également, bien entendu, la presse.
Oui, qui touche la presse. Après, aujourd'hui, notre lectorat chez nous à L'Orient le Jour est essentiellement à l'extérieur. C'est ce qui nous permet de survivre. Il est très présent, notamment en France. Après, il est évident que des grands titres comme le Nahar, qui était le grand titre du Liban, mais même de tout le Proche-Orient, aujourd'hui ont beaucoup plus de mal, ne serait-ce qu'à survivre.
Anthony Samrani, co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Le ministre de la Santé appelle à la vaccination et au port du masque face à la 9e vague de Covid-19 en France, qui s'ajoute aux épidémies de grippe et de bronchiolite. Les contaminations sont en hausse depuis plusieurs semaines. Parmi les personnes âgées de plus de 80 ans, seulement environ 20% ont reçu une quatrième dose de vaccin contre le Covid. Qui pour présider les Républicains? Éric Ciotti et Bruno Retailleau se sont qualifiés pour le second tour. Le député Éric Ciotti bénéficie d'une large avance avec 42,73% des voix contre 34,45% pour le sénateur Bruno Retailleau. Avec ses 22,29%, Aurélien Pradier n'est quant à lui pas parvenu à se qualifier. Le second tour aura lieu les 10 et 11 décembre prochains et le vainqueur succédera officiellement à Christian Jacob à la tête du parti. Le Maroc jouera ce mardi face à l'Espagne pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde. Coup d'envoi à 16h. La France affrontera l'Angleterre samedi prochain pour les quarts de finale. Les Bleus se sont qualifiés ce dimanche après une victoire 3-1 face à la Pologne. Les rencontres du jour, Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.